Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Et nous arrivons donc au début du chapitre 4. Romains chapitre 4, et nous allons lire ce matin les 8 premiers versets. Romains chapitre 4, les versets 1 à 8. Voici donc la parole de Dieu. Que dirons-nous donc ? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons eu cette petite coupure pendant les vacances, et donc je vous rappelle que nous sommes dans cette lettre de Paul aux Romains, où au début de la lettre, après l'introduction, Paul a donné cette déclaration, cette confiance, cette affirmation claire qu'il n'a pas honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance, et le terme, c'est véritablement, il est aussi parfois traduit en français comme la dynamite. L'Évangile, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, c'est-à-dire de celui qui a reçu l'Ancien Testament, la révélation avec toutes les ombres, tous les symboles, qui annonçaient que Dieu allait faire quelque chose de bien plus grand, mais aussi du grec, c'est-à-dire de tous ceux qui sont en dehors du peuple juif, qui n'ont pas eu toute cette révélation. Parce que dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 3 que nous avons vu donc la dernière fois, il y a quelques semaines, Paul passe ce temps pour rappeler, pour souligner que tous les hommes, sans exception, sont pécheurs. Que ce soit le juif qui a reçu toute la révélation de l'Ancien Testament, toutes les images, tous les symboles, ou que ce soit les nations autour qui n'ont pas eu ce privilège. Le constat est le même, tous sont pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste selon le standard, selon la norme de Dieu. C'est vrai que l'être humain va se dire, « Ah ben moi je suis meilleur que mon voisin, moi je ne fais pas autant de bêtises qu'un tel ou un tel. » Mais ça c'est se comparer au niveau horizontal. La comparaison, la norme de l'existence, de la vie, c'est par rapport à ce que Dieu a défini. Et là, le constat, il est clair. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et si on est honnête avec soi-même, si on regarde notre propre cœur, on voit combien de fois on essaye de se tromper nous-mêmes, en essayant de se dire qu'on est meilleur et finalement, en réalité, devant Dieu, on ne l'est pas. Et le constat est terrible. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié, personne ne sera déclaré juste devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne ne peut être juste, personne ne peut se rendre juste devant Dieu par ses œuvres, même en faisant tous les efforts possibles. C'est impossible d'être juste, parce que le problème, il est dans le cœur. Mais après avoir décrit cet état de fait, et fait ce constat terrible, Paul nous dit, il y a une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, c'est la traduction du terme évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle en grec. Il y a une bonne nouvelle, mais maintenant, chapitre 3, verset 21, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il y a une manière d'être juste devant Dieu. Il y a une manière d'être en règle avec Dieu. Il y a une manière d'être en paix avec Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce que Dieu donne, par la foi en Jésus-Christ, par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire dans ce monde. Et c'est en regardant à lui, en croyant à lui, en voyant que ce que lui, il a fait, en venant sur terre en prenant notre humanité, en vivant cette vie parfaite, en obéissant à toutes les exigences de Dieu. Il n'avait aucune raison de mourir. Mais il a pris sur lui les péchés de tous ceux qui croient en lui. Et il est allé à la croix. Et il a subi la condamnation de Dieu à la place de son peuple. Et Paul termine ce chapitre 3 en disant, mais ce que nous disons là ne contredit pas du tout ce que l'Ancien Testament enseigne. L'Ancien Testament attend cette heure de la révélation de l'Évangile, cette heure qui est venue dans la naissance et le ministère, la vie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Cette heure est venue. Nous, aujourd'hui, au 21e siècle, nous regardons en arrière. À l'époque, au 1er siècle, l'apôtre Paul, il regarde aussi à ce qui vient de se passer. Mais ceux dans l'Ancien Testament, ils attendaient ce jour. Ils attendaient la réalisation. Et Paul dit, mais maintenant c'est fait. Tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament a été réalisé dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul sait que cet évangile peut être mal compris. Il peut connaître... il peut y avoir des erreurs dans l'interprétation, même déjà au 1er siècle. Et dans ce chapitre 3 que nous avons vu, il le souligne, par exemple. Il dit, mais certaines personnes disent, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. Et ces personnes disaient que, ben, puisque Dieu nous justifie par la foi en Jésus-Christ, à ce moment-là, on peut vivre n'importe comment. Faisons le bien pour qu'il en arrive du bien. Faisons le mal pour qu'il en arrive du bien. Paul va revenir sur ce point un peu plus tard. Il sait que l'Évangile peut être mal interprété. Et donc, pour éloigner ces erreurs d'interprétation, Paul veut souligner ce point qu'il a déjà souligné, mais il ne cesse de le répéter. Les hommes et les femmes peuvent être justifiés, peuvent être déclarés justes devant Dieu sans la loi et par la foi en Jésus-Christ. Et cette déclaration est bien sûr une offense à toutes les personnes religieuses, quelle que soit leur religion. Ces personnes qui disent que leur acceptation devant Dieu dépend de leurs œuvres, que leur acceptation devant Dieu dépend des sacrifices qu'ils font. Et nous avons lu ce passage d'Ésaïe tout à l'heure, que Dieu dit non, ce n'est pas ça. Ces choses-là étaient des ombres, des ombres qui annonçaient quelque chose de bien plus grand. Mais la personne religieuse se repose sur ce qu'elle fait, sur les sacrifices qu'elle va offrir. Et quand on leur dit non, que ce n'est pas par les œuvres que l'homme est sauvé, ce n'est pas par ses efforts que l'être humain peut être justifié par Dieu, peut être en règle avec Dieu, ce message est une offense, ces personnes sont offensées. Et on peut comprendre pourquoi ceux qui entendaient l'apôtre Paul dans les synagogues pouvaient être en colère avec lui. Leur religion se reposait, la religion juive en particulier, se reposait sur le fait de posséder la loi, ce qu'aucune autre nation n'avait. Alors c'est vrai que l'annonce de l'Évangile, comme j'ai dit, apparaissait comme un reniement de l'Ancien Testament. Mais Paul dit non, l'Ancien Testament attendait, l'Ancien Testament annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament l'Évangile confirme l'Ancien Testament, la loi. Et après avoir expliqué tout cela, Paul aurait très bien pu aller directement au début du chapitre 5. Après avoir expliqué la justification par la foi, Paul aurait très bien pu débuter directement au chapitre 5, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Étant donc que notre position devant Dieu dépend de ce que Jésus-Christ a fait et de notre union avec lui par la foi, nous avons, dit Paul, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il va passer tout le chapitre 4. Il ne passe pas directement de la fin du chapitre 3 au chapitre 5. Il y a entre les deux ce chapitre 4. C'est comme si l'apôtre Paul faisait une pause et il veut s'attaquer à tous ceux qui s'opposent à l'Évangile pour lesquels ce message est une nouveauté. Pour eux, comme j'ai dit, ils disent que l'Évangile renie l'Ancien Testament. Et Paul prend le temps de dire, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que l'Évangile renie-t-il vraiment l'Ancien Testament? Et on voit cette question au verset 3, question très intéressante. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? C'est intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que Paul voit l'Ancien Testament non pas comme un ensemble de 39 livres, mais comme un seul livre, un seul message, une seule révélation qui a été donnée, qui a été écrite, qui a été donnée au peuple. Que dit l'Écriture? C'est intéressant pour une deuxième raison. Il ne dit pas qu'est-ce qu'a dit l'Écriture au passé, mais que dit l'Écriture au présent. Pour Paul, la Bible n'est pas un livre mort qui ne parle que du passé. Non, c'est bien la parole vivante par laquelle Dieu parle tout au long de l'histoire et elle parle encore aujourd'hui. Que dit l'Écriture? C'est intéressant pour une troisième raison. Pour Paul, ce livre est plein d'autorité. C'est la parole de Dieu. Dieu a parlé, Dieu s'est révélé. Il a dit ces choses et sa parole fait autorité. Mais c'est intéressant pour une quatrième raison, et c'est sans doute le point principal à relever de cette question, donc au chapitre 4, verset 3, que dit l'Écriture? Et c'est le fait, en fait, de souligner que c'est le réflexe de l'apôtre Paul. Son réflexe dans la vie, c'est de revenir sans cesse à l'Écriture. C'est de vivre, de s'examiner, d'examiner toutes choses à la lumière de l'Écriture. De se demander, dans toutes les situations, que dit l'Écriture? Et ça, c'est un exemple pour nous. Il veut tout soumettre au jugement de la parole de Dieu. Et quand Paul pose cette question, en fait, tout ce passage s'illumine devant nous. Et on voit comment Paul comprend la parole de Dieu. Il y a quatre points que je veux soulever ce matin. Il y a une illustration. Ensuite, il y a une exposition. Il y a une confirmation. Et ensuite, une question. Voilà quatre points. Un premier point, donc, l'illustration. Et on peut très bien imaginer donc l'apôtre Paul en train d'enseigner dans une synagogue et l'assistance qui proteste parce qu'ils disent que cela est en contradiction avec l'Ancien Testament, que tout cela est nouveau. Et Paul de dire, oh, attendez les gars, moi je vais vous donner une illustration. Et mon illustration, c'est Abraham. Alors bien entendu, ce n'est pas par hasard qu'il choisit Abraham. Abraham, c'est le père de la nation juive, c'est le père des croyants. On peut se rappeler de cette controverse en Jean chapitre 8, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même confronte les juifs, les religieux juifs, qui disent à Jésus, nous avons Abraham pour père, et ils pensaient que c'était la chose la plus importante, c'était la chose qui les distinguait des autres nations. Et Paul ici leur dit, ok, on va parler d'Abraham. Que dit l'Écriture au sujet d'Abraham? Et Paul va citer ce passage en Genèse chapitre 15, où il est écrit que Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et Paul dit assez détracteur, mais voyez pas cet exemple que de votre père. Le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, a dit exactement la même chose dans ce passage, dans Jean chapitre 8. Si Abraham était réellement votre père, vous croiriez en moi, parce qu'Abraham a compris le moyen du salut. Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Abraham a compris que son acceptation devant Dieu ne dépendait pas de ses œuvres. Il a cru dans la promesse de Dieu. Il a cru dans cette promesse et sa foi lui a été imputée comme justice. Voilà l'illustration que l'apôtre donne. Il dit, je vais vous parler d'Abraham. Deuxième point, c'est l'exposition. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, verset 3. Et Paul rajoute ensuite au verset 4, or à celui qui fait une œuvre, celui qui travaille, celui qui fait quelque chose, le salaire est imputé. Le salaire est mis sur son compte, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et quand on lit Genèse, Abraham n'a rien fait. Il n'y a rien en Genèse chapitre 15 qui décrit Abraham en train de travailler pour gagner la faveur de Dieu. Il n'y a rien qui décrit Abraham en train d'essayer de satisfaire toutes les exigences de Dieu. Non. Paul le souligne au verset 5. Celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il faut se rappeler que Abraham, à l'origine, était païen. Il sortait d'une nation païenne. Et Dieu l'a appelé à sortir de cette passion et de cette nation et à le suivre. Il a fait cette promesse à Abraham qu'il serait le père d'une multitude, bien qu'Abraham soit très avancé en âge. Et Abraham a cru. Abraham a cru dans ce Dieu qui lui faisait cette promesse, qu'il était capable de garder la promesse. Non seulement de lui donner une descendance multiple, mais aussi de pourvoir à ce sauveur qu'il avait déjà promis en Genèse chapitre 3. Abraham crut, sa foi lui a été imputée à justice. Dieu l'a déclaré juste. Alors bien sûr, on pourrait être tenté de dire à l'apôtre Paul, mais Paul, il y a un autre argument que tu cites dans la lettre aux Galates, chapitre 3, que tu aurais pu présenté à ce moment. Galates chapitre 3, rappelez-vous, Paul souligne que la loi de Moïse n'a été donnée que 430 ans après Abraham. Et Abraham ne pouvait donc pas être justifié par son obéissance à la loi. Mais Paul a un autre argument sous le coude, et cela nous amène donc au troisième point. la confirmation. Il y a l'illustration, je vais vous parler d'Abraham, l'exposition, il explique. Ensuite, il y a la confirmation pour appuyer ce qu'il vient de dire. Abraham a été justifié par la foi, comme le déclare l'Écriture. Et puis Paul dit, mais qu'en est-il de David? Qu'en est-il de David? Abraham, oui, c'était le père de la nation, le père de la nation juive, le père des croyants. Mais David, David, c'est le roi. David, c'est le chantre d'Israël. C'est celui qui a écrit une grande partie des psaumes. Mais c'est aussi celui qui est connu pour avoir été adultère et meurtrier. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que David, quelle loi David a-t-il obéi pour être justifié devant Dieu? Et Paul cite ce psaume, ces paroles du psaume 32. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. David, bien sûr, existait dans une période où la loi avait été donnée, où le peuple connaissait les commandements. Tous les commandements. Ils entendaient l'enseignement, même s'ils s'en détournaient régulièrement, mais ils avaient la loi, elle avait été donnée. Mais David a compris qu'il ne pouvait être justifié devant Dieu que par la grâce de Dieu. Que Dieu l'acceptait et lui accordait son pardon, non à cause de ses œuvres. Que David ne pouvait pas chercher à faire basculer la balance en faisant un peu plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Non, ça c'est le religieux qui réfléchit dans ce sens-là. Non, David connaissait la bénédiction d'être accepté de Dieu, d'être pardonné de ses péchés, d'être lavé de ses fautes. Il savait que cela était par grâce, que c'était immérité et que c'était par la foi. Par la foi dans ce Sauveur que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament et qu'il nous a donné dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Abraham et David et tous les croyants dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament et aujourd'hui, sont justifiés sans les œuvres de la loi. Je ne sais pas si dans la lecture, vous avez remarqué le terme « imputé » qui a été souvent utilisé à partir du verset 3. Que dit l'Écriture ? « Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre et qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Une question d'imputation. Imputation, c'est mettre sur le compte de quelqu'un. La seule base sur laquelle David à la fois décrit comme le centre de l'Éternel, comme un homme selon le cœur de Dieu, mais aussi connu pour cet adultère et ce meurtre. La seule base sur laquelle il peut se tenir devant Dieu, Dieu qui est saint, qui est pur, qui est parfait, qui a horreur du mal. La seule base, c'est que la justice de Dieu a été mise sur son compte. Elle a été imputée sur son compte. Et David sait qu'il peut se tenir devant Dieu. Comment est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu? C'est en étant revêtus de la justice divine, en ayant la justice de Dieu mise sur notre compte. Et cette justice est révélée dans l'Évangile. Abraham, David et les autres croyants de l'Ancien Testament ne l'ont sans doute pas vu aussi clairement que nous qui regardons à l'œuvre qui a été accomplie. Eux, ils regardaient vers l'œuvre que Dieu avait promis d'accomplir Nous, nous voyons l'œuvre que Dieu a accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils avaient quand même compris que leur acceptation devant Dieu n'était pas selon leur obéissance à la loi ou selon leurs efforts, mais c'était dans la foi, selon la foi dans l'œuvre de Dieu que Dieu allait accomplir par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ce Messie, ce Sauveur promis. Il y a une illustration, il y a l'exposition, la confirmation et le quatrième point, donc la question. J'aurais dû dire les questions, parce qu'en fait, il y en a trois. On peut diviser la question, dire qu'il n'y a qu'une seule question en trois parties, si vous voulez. La première, tout d'abord, c'est qu'est-ce que Paul dit à la fin du verset 5 quand il dit « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à la justice. » Certaines personnes, en lisant ce verset, sont troublées parce qu'elles ont l'impression que cela veut dire que, puisque personne ne peut garder la loi de Dieu, alors Dieu va baisser la norme en disant « Bon, puisque vous ne pouvez pas garder la loi, alors, si vous croyez en moi, je vous accepterai, j'accepterai cela comme un substitut, comme un remplacement de votre obéissance. » Comme si la foi venait remplacer l'obéissance. Mais Paul ne peut pas dire cela. Il a déjà expliqué au chapitre 3 que ce n'est pas la puissance, la force de ma foi qui me sauve. Mais c'est Jésus-Christ qui me sauve par la foi. Ce n'est pas ma foi qui me sauve, c'est Christ qui me sauve par la foi. La foi n'est pas un deuxième niveau que Dieu accepterait. N'est pas une loi de deuxième catégorie que Dieu accepterait. Non, c'est Christ qui sauve. Et cela depuis le livre de la Genèse. C'est lui qui sauve et qui sauve parfaitement. Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde pour être le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Quand on comprend qui il est, quand on comprend pourquoi il est venu dans ce monde, quand nous sommes attirés à lui par l'œuvre de l'Esprit-Saint, alors la foi nous est donnée. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi nous est donnée, cette foi se saisit du Seigneur Jésus-Christ. Et lui dit, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Mes œuvres sont imparfaites. Toi seul peux me sauver. Prends-moi tel que je suis. La foi affirme que je ne peux rien faire, que seul Jésus peut me sauver de mes péchés. Seul Jésus peut me justifier, peut me rendre juste devant Dieu. La deuxième partie de cette question, peut-être la plus importante, comment est-ce que Dieu peut faire cela? Comment est-ce qu'un Dieu parfaitement juste, parfaitement pur, parfaitement saint, peut-il justifier des êtres humains qui sont pécheurs, qui sont impies, qui sont rebelles devant lui? Lui qui a dit dans l'Ancien Testament, Proverbe 17, verset 15, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Mais comment est-ce que Dieu, qui est pur, peut-il absoudre le coupable sans se renier? Comment est-ce qu'il peut pardonner aux pécheurs? Et la réponse, elle est là, dans cette lettre aux Romains. Dieu peut pardonner parce qu'il n'impute pas le péché aux croyants. Le péché du croyant, il l'impute sur le compte d'un substitut. Et ce substitut n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que Dieu ne tient pas compte du péché. Au contraire, Dieu a horreur du péché. Il doit punir le péché. Mais la beauté de l'Évangile, c'est que Dieu a imputé le péché du croyant sur son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il parle là du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a cette imputation à tous ceux, pour tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, qui viennent à lui dans la repentance, à la foi, qui regardent à lui. Nos péchés sont imputés sur le compte du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ meurt, subit la condamnation, satisfait la justice de Dieu sur la croix à Golgotha. Et en même temps, la justice du Seigneur Jésus-Christ qu'il a obtenue par son obéissance parfaite, cette justice, elle est mise sur le compte du croyant. Et Dieu ne peut pas le condamner parce qu'il voit la justice parfaite de son Fils. Il y a cette double imputation. Mais c'est aussi l'enseignement. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça a déjà été annoncé dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, on a cité tout à l'heure le début du livre d'Ésaïe, mais si on va jusqu'au chapitre 53, on connaît ce passage. Ésaïe 53, versets 5 et 6, en annonçant les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, du Sauveur, du Substitut, du Messie. Le prophète dit ceci, il a été blessé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et ça c'est vrai encore aujourd'hui. Chaque être humain suit sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Jésus a tout payé à la croix. Il a tout accompli. Il n'y a absolument rien à rajouter. C'est pour ça qu'il s'est écrit, tout est accompli. L'œuvre qu'il a faite à la croix est une œuvre qui est parfaite. Mais la troisième question, la troisième partie de cette question, pourquoi est-ce que cet enseignement de Paul ne conduit-il pas vers une vie de désordre? C'était l'accusation de l'Église romaine au XVIe siècle au sujet de l'enseignement des réformateurs protestants. L'Église romaine disait, mais attendez, vous parlez de la libre grâce de Dieu en Jésus-Christ, par laquelle l'homme peut être sauvé sans les œuvres. Mais attendez, si vous faites cela, vous allez permettre aux personnes de vivre n'importe comment, de n'importe quelle manière, une vie de désordre. Quelle est la réponse de Paul? Sa réponse, elle est dans le reste du chapitre, et nous y reviendrons plus tard, mais on va le résumer de cette façon. Le salut qui nous apporte la justification vient exclusivement par la foi qui est un don de Dieu. La personne qui affirme être justifiée, et en même temps qu'elle peut vivre n'importe comment, cette personne n'a pas la moindre idée de ce que c'est que la foi. Paul va revenir plus tard à l'exemple d'Abraham, encore une fois. Il va montrer que, effectivement, comme il l'a dit, Abraham a été justifié par la foi. Mais qu'Abraham a aussi grandi dans la foi en donnant gloire à Dieu. Et c'est ce que la vraie foi fait toujours. À Dieu soit la gloire. Voilà ce qu'elle dit. À Dieu soit la gloire. La vraie foi remercie le Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice parfait, pour sa substitution. Il a pris la place du croyant. Il est mort, il a subi la colère de Dieu. Cette colère qui va se déverser sur tout être humain en dehors de Christ. Le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu, c'est d'être trouvé en Christ, d'être revêtu de sa justice. Tout ce dont nous avons besoin pour aller de ce monde au monde à venir, nous l'avons en Christ. Tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous tenir devant Dieu qui est pur, qui est parfait, qui est saint, qui est juste, même en pensant à nos faiblesses, à nos péchés, à tout ce que nous avons fait de travers, à tout le temps que nous avons perdu, nous serons capables de nous tenir devant Dieu parce que nous sommes revêtus de la justice de Christ. Christ est notre tout. Celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est reconnu comme pécheur et qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, s'approche de Dieu le juge. Et Dieu le juge reconnaît le vêtement que nous portons, parce que nous portons la justice de Christ. Il y a eu cette imputation, la justice de Christ a été mise sur notre compte, nos péchés ont été mis sur le compte du Seigneur Jésus-Christ, et il a satisfait toutes les exigences de Dieu en allant sur la croix. Dieu, le juge, voit la justice de son Fils et nous accueille dans sa présence. Voilà! Voilà le privilège du véritable croyant. Voilà le privilège, notre privilège, si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre tout. Non, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. La justification devant Dieu, le fait d'être déclaré juste devant Dieu, sera toujours par la foi en Jésus-Christ et sans les œuvres. Et Paul dit, cette personne justifiée est heureuse. On peut aussi traduire par bénie. Elle est heureuse. Nous pouvons nous tenir devant Dieu, comme il le dira au début du chapitre 5, et connaître cette paix avec Dieu. Parce que Dieu nous a déclarés justes en Christ. C'est le seul moyen. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par une vie de sacrifice. Non, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est que par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à véritablement comprendre cela, qu'il nous aide à apprécier toujours plus la beauté de cet évangile, et à nous réjouir dans cette grâce qu'il accorde en Jésus-Christ. Amen.